chronique de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Victor Schœlcher et l'abolition de l'esclavage. Premier épisode, l'histoire de l'abolition de l'esclavage. Lorsqu'on arrive par mer à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, l'ambiance est immédiatement créée. L'avenue conduisant du débarcadère au centre-ville se nomme Victor Schœlcher et à main droite, en face du bel office du tourisme, la statue d'un esclave enchaîné, le regard tendu vers le ciel, rappelle le destin tumultueux des îles. Victor Schœlcher ne fut jamais académicien. Plutôt considéré comme un agitateur, n'ayant produit aucune œuvre justifiant une telle cooptation, il ne reçut des honneurs que tardivement après avoir obtenu l'abolition définitive de l'esclavage dans les territoires français, laquelle est publiée au journal officiel de la Seconde République lors du gouvernement provisoire le 27 avril 1848. L'attitude générale de la France vis-à-vis de la traite et de l'esclavage, qu'elle fût royaume, empire ou république, fut ambiguë. Il fallut s'y reprendre à deux fois pour obtenir la fin légale du trafic et du mode d'exploitation esclavagiste à travers de sanglantes péripéties qui entachent encore la relation de la métropole avec les Antilles. La première abolition fut votée sans débat le 16 pluvieux en deux, c'est-à-dire le 4 février 1794, par les députés de la Première République. En fait, il avait été longuement débattu au préalable, hors hémicycle, de ce projet qui rencontrait à la fois beaucoup d'approbation morale mais une forte opposition économique. Ce fut un désastre. Voté dans le tumulte révolutionnaire, obtenu grâce à des mouvements philanthropiques originaires d'Angleterre, elle était en contradiction totale avec les intérêts économiques du pays, fragilisée de surcroît par les successifs aléas politiques. Tous les philosophes se mêlèrent de soutenir l'abolition. Montesquieu, dans un beau chapitre ambigu de l'esprit des lois, Rousseau, bien sûr, je le cite, l'homme est né libre, mais partout je le vois dans les chaînes, Voltaire, Diderot, et surtout les bouillants écrits de l'abbé Raynal qui firent grand bruit, soutenus par les déclarations de la Société des Amis des Noirs et le Club Massiac. Les armateurs des villes portuaires, opulentes grâce au commerce triangulaire et la traite, Bordeaux, Nantes, Saint-Malo, La Rochelle, Lorient, Rouen, Le Havre, y étaient fortement opposés. Ils y voyaient la fin de leur fortune, mais en même temps, nombre d'entre eux, notamment les protestants, pouvaient être membres d'une association abolitionniste. Le dilemme était profond. On considère qu'environ 500 000 Africains furent expédiés aux îles du Sucre, on les nommait de cette manière, au rythme d'environ 20 000 par année, en moyenne. Ce n'est pas par hasard si ces villes portuaires furent si belles et opulentes. Les fortunes y étaient parfois considérables, mais le métier d'armateur comportait aussi de nombreux aléas. La perte d'un ou deux navires, ce qui arrivait finalement assez fréquemment, menait tout droit à la faillite, et le système global reposait largement sur l'emprunt. Les rôles d'inventaire, d'ailleurs, sont là pour en témoigner, et l'Institut de France a eu une très belle exposition à ce sujet fin 2011, produisant de nombreux documents, ainsi qu'une édition originale du Code noir. En fait, en 1794, c'est la traite qui fut plus ou moins atténuée, et non l'esclavage, à la faveur de la guerre avec l'Angleterre. Mais elle reprit de plus belle après la paix d'Amiens le 27 mars 1802. L'abolition provoqua des désordres extravagants dans les îles sucrières, des horreurs, des situations de guerre civile, de sanglantes rébellions. Blancs, noirs, sans mêler, s'affrontèrent dans une violence inouïe, reflétant tout l'énorme contentieux moral et humain pesant sur ce mode d'exploitation. La dévastation fut partout, et les incendies, et les massacres à la machette. Saint-Domingue, la si belle, fut ravagée. Des milliers d'hommes et de femmes, d'enfants, de toutes origines, y laissèrent la vie. Cette première abolition amena une totale confusion administrative dans nombre d'îles, tant sur le plan interne qu'international. En principe, en guerre avec l'Angleterre, les insulaires durent souvent faire appel aux troupes britanniques voisines pour rétablir un semblant d'ordre, ainsi qu'aux Espagnols, ce qui suscita de nouveaux conflits d'appropriation. L'épisode de 1794 illustre très bien l'importance de la traite dans l'économie nationale, ainsi que la faiblesse de l'idéologie abolitionniste de l'époque. Voltaire louait la liberté, mais il était aussi riche actionnaire de compagnies coloniales. La paix fut de courte durée, et bien avant son rétablissement, les armateurs avaient repris leur voyage. Après un orage qui dura 8 années, la France recouvrait ses colonies. La traite et l'esclavage, jugés nécessaires, étaient rétablis par une loi du 20 mai 1802, votée par 215 voix contre 63. Ce rétablissement concerne la Guyane et la Guadeloupe. La Martinique, qui fut occupée pendant presque 8 ans par les Anglais, n'avait pas connu d'arrêt, et les Mascareignes n'avaient pas appliqué la loi de Pluviose. Saint-Domingue resta aux mains des Noirs et la Louisiane, restituée en 1800, fut vendue aux Américains pour 15 millions de dollars or afin de financer la troisième coalition. La guerre reprend et les îles tombent une à une aux mains des Anglais, souvent au prix d'une guerre de course maritime impitoyable. En 1807, la Grande-Bretagne impose l'abolition de la traite, mais non de l'exploitation dans les îles, assorti en 1811 d'un système d'inspection des bateaux. Mais ce système sera de fort courte durée, car il est très difficilement applicable. C'est l'époque où l'Angleterre commence à vouloir prétendre à un empire des mers imposant ses normes et sa police. Les Bourbons rétablis, Louis XVIII promet, je le cite, « d'encourager l'abolition ». Napoléon, pendant ses 100 jours, abolit l'esclavage et la traite d'un trait de plume, mais Louis XVIII, revenu, les rétablit sans que toutes ces décisions ne reçoivent jamais, faute de temps, une quelconque application locale. C'est le deuxième congrès de Vienne, bien plus sévère pour la France que le premier, qui, sous la pression anglaise, oblige à promettre une abolition immédiate en date du 15 juillet 1815. Mais rien n'est fait. S'en suivront deux rois, Charles X et Louis-Philippe, sans que rien ne bouge. Toutefois, à partir de 1817, l'Assemblée de la morale chrétienne, présidée par le duc de Broglie, structure son action et réveille les consciences en fournissant d'accablants rapports de maltraitance. Ce mouvement est d'origine protestante, en partie dû aux actions de Madame de Staël et de Benjamin Constant, et rassemble, je cite, « tous les chrétiens, sans différence d'obédience ou de religion ». Après la Révolution de 1830, Louis-Philippe subit la pression des libéraux. Une commission est créée en 1843 sous la présidence du duc de Broglie et fournit son rapport. Les abolitionnistes sont de plus en plus nombreux. D'abord, les mentalités ont évolué. Et puis surtout, le début du machinisme, l'exemple anglais est déterminant dans les plantations de sucre, de tabac et de coton, tend à réduire la nécessité d'un grand nombre d'esclaves. Une trieuse automatique ne se révolte pas et n'a jamais l'intention d'assassiner son propriétaire. La traite ralentit sérieusement à partir de 1830-1840, sous ce constat, et aussi parce que sur place dans les îles, les esclaves se reproduisent, comme on dit à l'époque, en nombre suffisant. La traite se déplace vers Cuba, qui devient un grand centre de tri, et plus au sud, vers le Brésil, dont l'essor à cette époque est très important. Toutefois, l'armateur négrier disparaît progressivement malgré la continuation de bénéfices pouvant avoisiner les 400% de la mise initiale. La traite tend à devenir une sorte de piraterie occupée à éviter les interdictions de plus en plus nombreuses et les fameuses inspections britanniques. Après 1850, l'Europe passe assez rapidement à une économie industrielle et l'abolition nord-américaine, voulue par Abraham Lincoln, pourtant assortie d'une terrible guerre civile, est un virage décisif. En France, même si dans les îles l'économie esclavagiste reste essentielle pour les planteurs, les abolitionnistes sont de plus en plus nombreux et efficaces. Sous leur impulsion, de houleux débats ont lieu à la Chambre en 1847. Les mouvements religieux, avec compassion, en nourrissent l'idéologie. Une pétition signée par 3 évêques, plus de 1200 prêtres et pasteurs et 9000 entrepreneurs et propriétaires circulent bientôt. Victor Schœlcher en est un des animateurs. Les troubles révolutionnaires se multiplient, la monarchie de Juillet sombre. Sous la pression de Schœlcher, véritable leader du mouvement et de ses amis, le gouvernement provisoire de la République nomme une commission dès le 4 mars 1848 afin de rédiger un projet en vue d'une abolition immédiate dans toutes les colonies. Le décret d'abolition est publié le 27 avril 1848, établissant la fin définitive de la traite et de l'esclavage.